Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres, peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, une laborantine des bipèdes en interface entre monde vivant et société humaine nous rejoint sur les ondes. Pouvez-vous vous présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je m'appelle Christine Marsan, j'ai 58 ans, je suis consultante en accompagnement au changement et des transformations. Je suis psychosociologue qui fait une curiosité pour l'intérieur, donc toute une activité de thérapeute pour aider les gens à redevenir des hommes et des femmes debout. Je m'intéresse à comment fonctionne l'intérieur des structures, des organisations pour les aider, les accompagner à se transformer. Et puis, je m'intéresse à la société au plan plus général pour essayer de comprendre aussi ce qui évolue et tenter de donner des clés de compréhension de ce qui se passe et puis surtout d'avoir une traduction concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la période singulière que nous sommes en train de vivre? Ma vie, dans mon quotidien, tourne autour de mes tâches. Je suis plutôt nomade et je vais d'un point à un autre. Il ne m'empêche pas d'avoir une attache pour le moment à Biarritz. Et je bouge beaucoup pour aller dans les endroits où il y a des choses à porter, à soutenir. En changeant de point de vue, ça change tout. Voilà, je recevais ce week-end un monsieur iranien. Et voir le monde depuis l'Iran, en ayant l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde à côté, les pays arabes du Moyen-Orient et du Golfe Persique à côté, c'est pas pareil que d'être en France avec certains pays européens à côté. Donc ça va avoir une incidence sur tout, c'est-à-dire c'est pas les mêmes paysages aussi. Et ça m'intéresse de me dire si je vis dans un désert, si je vis dans une forêt, au bord de la mer, dans une campagne, dans une montagne, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je suis plutôt abeille qui vais tenter de comprendre comment ça marche, quels sont les territoires, les problématiques. J'essaie de les écouter et d'apporter des éclairages pour les autres qui ne savent pas. C'est d'ailleurs comme ça que je fais mes pédagogies de transformation. J'amène les gens dans des territoires différents. Alors certes qu'en France, mais pour l'instant. Mais voilà, les gens ne racontent pas du tout les mêmes problématiques, les mêmes rapports aux vivants, les mêmes rapports aux loups, selon où ils habitent.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour vous? Sauriez-vous le décrire en trois mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
Pour moi, c'est le lien, l'interdépendance. L'interdépendance, c'est une évidence quand on est vraiment dans l'observation. On va voir que tout est lié si on est vraiment dans l'observation, qu'une espèce en soutient une autre, qu'il y a de la coopération dans l'interdépendance, et qu'il y a du lien aussi, en fait, l'un induit l'autre. Comment les racines des arbres peuvent apporter des substrats, soit à des individus plus petits que l'arbre adulte, soit d'autres espèces. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une capacité à composer entre compétition et coopération, avec une valence positive, enfin une priorité donnée à la coopération, parce que c'est ce qui permet la survie. Si ça avait un goût, ça serait un goût d'une préparation d'un plat qui mettra en exergue plusieurs saveurs. Une couleur, le coucher de soleil irisé, qui est aussi un riz de plusieurs couleurs. En fait, j'ai pas envie de répondre avec une seule, c'est ça que j'essaie de dire. C'est la pluralité des parfums, la pluralité des goûts, des couleurs, l'agencement des fleurs, des paysages, où tout est magnifiquement organisé. Alors, il y a des peintres extraordinaires qui savent rendre compte de cette beauté que l'on voit et qui arrive à rendre compte des perspectives, etc. Mais des fois, on est un peu démunis. C'est-à-dire qu'il y a des agencements de couleurs qui sont quand même époustouflants. Ça change tout le temps. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve remarquable. C'est à la fois, il y a de la stabilité et du mouvement permanent. Je suis proche de l'océan, donc l'océan, c'est toujours pareil et jamais pareil. On le retrouve toujours au même endroit et pourtant ça bouge tout le temps avec l'élément eau. Mais les arbres aussi, les arbres ça bruisse, ça bouge. Et je suis toujours pleine de compassion quand il y a des grandes tempêtes parce que je sais que ça va les malmener, que ça va les briser, que ça va les déraciner. Il y a une texture, peut-être une écorce d'arbre. Parce que on sent plein de choses dans la main avec l'écorce d'un arbre. Mais ça peut être aussi le fin du sable dans la main qui glisse et passe entre les doigts. Quelque chose qui reste quasiment pas, un peu comme l'eau. C'est amusant d'ailleurs de voir des éléments qui sont proches comme le sable et l'eau et qui sont assez émouvants, assez, on peut pas trop les attraper, les enfermer. Un son, le chant des oiseaux. J'adore les enregistrer. Quand je parcours le monde et qu'on entend des espèces qu'on n'a pas chez nous, j'adore ça. Pour ça, je suis pas contente si on fait venir des espèces qui sont pas endémiques, comme les perruches, par exemple. Pour moi, les perruches, c'était l'Inde. C'est ma Madeleine de Proust, quoi. Parce que c'est là que je les ai entendues en premier lieu. Mais il y a quelque chose où cette couleur verte éclatante, elle va très, très bien en Inde. Moins bien en Île-de-France. Aussi, d'autant que à l'espèce a tendance à malmener celles qui sont endémiques, donc c'est dommage.
Comment retranscrivez-vous cette vision du vivant dans vos projets ?
Tout ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'ai mis dans la dernière structure unifiée, qui s'appelle AlterCoop. J'essaie de mettre l'accent sur la coopération et la compréhension du fonctionnement humain. Alors j'ai plutôt une priorité sur l'être humain. Il y a un tel impact de l'être humain sur tout le reste du vivant que c'est par ce bout-là que je le prends. Donc toutes les actions que j'entreprends ou les pédagogies que je mets en place, c'est des pédagogies de transformation. Se transformer compte tenu des évolutions du monde, comment on s'adapte. Et surtout, comment on s'adapte pour respecter ce vivant, pour faire en sorte qu'on atteigne un niveau de conscience où respecter l'autre, quelle que soit son espèce, est une évidence. On ne pourrait pas faire autrement. Donc, j'ai développé une pédagogie de l'altérité, de la coopération, comment on se rencontre, on se respecte dans nos différences, comment on aime rencontrer la différence, comment elle est enrichissante. Donc c'est la notion du lien, du tissage, de la coopération. Et je m'intéresse à l'intelligence collective, mais non pas comme une finalité, mais plus comme un moyen pour saisir, comprendre la complexité de notre monde et faire en sorte qu'on sache l'embrasser et faire avec, et pas réduire, parce que dans la réduction, c'est comme ce qu'on fait avec le vivant. Quand on réduit, on coupe. L'arbre devant moi, cette altérité qui me dérange par rapport à mon projet de maison, hop, je coupe. Et pas comment je fais ensemble. Comment je fais puisqu'il est là, il est là depuis des années, des dizaines d'années, voire plus. Il apporte quelque chose. Tout le monde se rend compte qu'en allant marcher dans la nature, on se sent mieux après. Donc on n'a pas forcément besoin de connaître les propriétés scientifiques, on se rend bien compte que ça fait du bien. Donc, si cet arbre est là sur ce terrain que j'ai acquis pour ma maison, au lieu de l'éliminer, comment je peux composer avec ? Et si je compose avec, je tisse un lien vibrant et ces liens que l'on tisse avec tous les mondes, tous les règnes, et bien ça apporte, si on n'est que centré sur notre individualité d'être humain, ça nous apporte du bien-être, de la santé.
Momentos brillantes, destinos desconocidos.
J'ai envie de parler de mes déclics. Donc on en a tous plusieurs. En essayant de comprendre ce qui me passionnait dans la condition humaine et dans les axes d'action et de développement que j'ai pris, je me suis posé la question, je me suis dit d'où ça vient. Je suis d'une famille normale, qui a une vie normale, enfin rien de... Je n'ai pas vu des traumatismes, pas possible. Mais ça m'a quand même posé la question petite, de me dire, mais pourquoi des gens qui s'aiment peuvent passer des repas entiers à faire la tête, à ne pas se parler ou pas dire les sentiers, enfin bref. Des trucs où j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal d'incohérences et je me demandais pourquoi. Aux environs de 13 ans, à l'école, on nous a partagé un film. Je ne me souviens pas qu'on nous ait préparé à ça. J'ai vraiment l'impression qu'on nous a lâchés dans le bain. Et ça s'appelait Né brouillard. Et c'est un film sur la Shoah, sur les camps de concentration quand ils ont été ouverts, qu'on a vu l'étendue du désastre. Ça montre des êtres humains décharnés. Enfin bon, bref. Oh, wow. Et moi, j'étais pas du tout préparée à ça. Je savais pas que ça existait. On n'en avait pas vraiment parlé. Et ça a créé une déchirure. Mais vraiment, hein, c'est... Pas une déchirure physique, j'ai pas saigné, mais c'était complètement symbolique. C'est comme si on déchirait mes plans subtils, enfin quelque chose qui était pas forcément visible, mais qui a vraiment créé quelque chose de très fort et semé une graine sur le questionnement sur la nature humaine. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on soit ce qu'on est? Mais qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce qui nous meut pour faire des horreurs pareilles? Et en plus, enfin ça c'est rétrospectivement que je peux le dire, et de me dire, on est quand même très nombreux à se dire plus jamais ça, le ça étant pluriel, hein, ça peut être plein de choses horribles qu'on n'a pas envie de revivre. Et pourtant, que ce soit par des mécanismes personnels, que ce soit des biais ou autres, comme des mécanismes plus globaux, on perd la mémoire, on oublie et on recommence. Et on recommence avec une variété, une diversité d'expressions du mal qui est quand même impressionnante. Alors, on pourrait considérer que le vivant est capable des deux, puisqu'il est capable autant de création que de destruction. Mais par rapport à l'être humain, je me dis, on a en théorie la capacité réflexive à se poser la question de ce que l'on veut et de ce qu'on pourrait faire de notre société. Et je me dis, mais en faire ça, mais comment c'est possible? Et puis là, aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2025, c'est l'investiture de Donald Trump et on part pour 4 ans qui vont nous conduire dans des régressions quand même assez abyssales. On ne s'est pas remis des 4 ans précédents, hein, puisque c'est avec cette mandature que l'utilisation des réseaux sociaux est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire qu'on peut y dire n'importe quoi, on insulte tout le monde et c'est normal. Et là, c'est puissance 12, puisqu'il y a, voilà, il y a Nescavec et tous les autres derrière qui tiennent les réseaux sociaux. Donc, ça me conduit non pas à être, dévastée d'une certaine manière, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on est capable de refaire ça? Et après, je vais vite sur le côté de la compréhension. Qu'est-ce qui nous a conduit à ça? Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire ça? De qui est-ce qu'on n'a pas pris soin pour qu'il y ait besoin de répondre comme ça? Et évidemment, après, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, autrement, pour apporter autre chose. Donc, comment est-ce qu'on peut retisser du lien, je reprends l'expression d'Abdennour Bidar, comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour retisser le tissu déchiré du monde, c'est son expression. C'est ce moteur intérieur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être capable du pire, et que non content qu'on le sache, puisque c'est largement renseigné, écrit, filmé, qu'on fasse toujours la même chose et qu'on ne tienne pas compte des enseignements.
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, portait sur le déclassement du statut du loup de strictement protégé à protégé, donnant ainsi la possibilité de réguler la population de loups, notamment grâce à l'instauration de quotas de tir. Suite à la décision prise le mardi 3 décembre 2024 par le comité permanent de la Convention de Berne, des voix s'élèvent côté association naturaliste européenne pour faire valoir la nécessité de revoir cette décision. En effet, plus de 700 scientifiques et universitaires ainsi qu'un groupe de spécialistes de l'UICN ont recommandé à la Convention de Berne de ne pas autoriser ce vote de la proposition de l'Union européenne sur les loups, ou de voter contre, car cette proposition n'est pas suffisamment étayée sur le plan scientifique, selon eux. La position du milieu agricole est équivoque côté FNSEA pour que cette décision permette un abattage plus aisé des loups, tandis que la Confédération paysanne nuance cette décision qui ne permettra pas, de leur point de vue, une réelle protection des troupeaux face à la prédation. Le recours déposé a donc comme argument majeur de bien vouloir replacer les avis scientifiques au cœur des débats politiques afin de ne pas créer des erreurs monumentales impactant la santé des écosystèmes déjà largement impactés par les activités humaines et le dérèglement climatique. Sur le plan juridique, le processus de reclassement du loup n'est pas totalement achevé. La modification entrera en vigueur dans 3 mois, le 3 mars prochain, sauf si au moins un tiers des parties à la Convention de Berne s'y opposent, auquel cas elle ne prendra pas effet. Si moins d'un tiers des parties s'y opposent, la décision entrera en vigueur uniquement pour les parties qui n'ont pas formulé d'objection. La réglementation française permet actuellement un prélèvement de 19% de la population de loups pour un nombre total estimé en 2024 à 1013 individus en France. À la lumière de votre vision du vivant, que pensez-vous de tout cela ?
Je m'appuierai sur l'expérience d'un homme que j'ai connu qui était d'une grande profondeur et d'une grande sagesse, il s'agit de Thierry Geffray, qui est à l'origine d'un immense GIEC dans le Haut-Divois, et qui a rencontré le loup. Le loup s'est installé dans la surface de sa propriété, donc il avait à peu près 1000 hectares à l'époque, et des brebis. Et il nous a confié ce que ça lui a fait vivre. Donc il est passé de la colère extrême, puisque la première année, ils ont eu à peu près 100 de brebis tuées. Donc c'était une colère extrême, donc il comprenait bien les autres agriculteurs. Et effectivement, il n'y avait pas que le fait de tuer des bêtes en termes dans une logique de troupeau et donc de perte financière, ça c'est un aspect économique de la question, mais il y avait surtout aussi que ce sont des animaux qu'il connaissait, qu'il aimait, même s'il y en avait beaucoup, et que c'était excessivement virulent. Donc ça a bousculé considérablement l'équilibre de sa propriété, de son exploitation, et ça l'a bousculé énormément puisqu'il en est arrivé à manifester un cancer. Et à partir de ce moment-là, il a confié, il a partagé son chemin de vie, sa compréhension, et il s'est rendu compte que le loup qu'il voulait au départ exterminer, il en est venu à l'observer. C'est-à-dire que pour arriver à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, il s'est mis à l'observer. Et en l'observant, tout en ayant donc ce stress de tuer ses brebis et le stress de sa propre santé, il en est venu à rentrer dans une phase qu'il nommait de sensualité, de poésie. C'est-à-dire que l'observation que le loup lui a imposé sur son territoire, sur ses 1000 hectares, il a mis à revisiter la beauté de ce terrain qu'il avait. C'est-à-dire qu'il n'était plus en train d'exploiter des hectares et des brebis, il était en train de redevenir observateur de son territoire et de réapprendre à l'aimer. Et donc voilà, cette personne est passée, donc en étant très clairement un exploitant, donc pas quelqu'un qui a une vision poétique en étant un citadin, qu'il était tout à fait concerné, vraiment dans l'expérience réelle de ce que ça peut produire. Et il a été affecté intérieurement par le phénomène, touché profondément. Et pour résoudre, il s'est mis à observer et ce faisant, il a pu recontacter la poésie, la contemplation, la beauté. Et ça a changé sa vision du monde. Voilà, donc je, n'étant pas spécialiste, je m'appuie sur ce témoignage qui nous avait bouleversés. Et d'ailleurs, il y a un film qu'il a réalisé sur le loup. Parce que je pense que c'est le trajet que l'on peut faire peut-être intérieurement pour sortir de la notion d'exploitation d'une ressource, le loup ici en l'occurrence, et les brebis de l'autre côté, et avoir un autre regard plus distancé et plus en lien, en harmonie, en connexion, et alors ça fait agir autrement.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiteriez-vous nous communiquer ?
J'ai envie de vous inviter à aller à l'Université de la Terre, mi-mars, à Paris, à l'UNESCO. Ça fait 20 ans que cette manifestation existe et elle a effectivement beaucoup contribué à modifier des choses dans ma pratique. Les ouvrages que je lis, il y a de très belles collections chez Actes Sud, les classiques avec Baptiste Morisot, il y a un très joli livre aussi, Reliance, un manuel de transition intérieure qui a été réalisé. Philippe Descola, évidemment, qui est un auteur mais inconnu sur le vivant. Donc voilà, je dirais, il y a Géoconscience aussi de Maxime Blondeau, récemment sorti, qui peut nous amener à avoir une compréhension de ce qui est en train de se passer. Continuer à travailler sur nous pour monter le niveau de conscience, parce que c'est cette conscience-là qui fera la différence.
Tu y as pêché où, baobab, acajou. Voici que cet épisode aux côtés d'une transformatrice des échanges humains non humains prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle, fraîchement cueillie.
De palissandre, mais l'aise tremble être noyée.